Bonjour, je suis Céline Hussonnois-Alaya. Voilà 100 jours que Gabriel Attal occupe Matignon. Si le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la Ve République a su imprimer son style et gravir tous les échelons à vitesse grand V, plus de 6 Français sur 10 doutent encore de sa capacité à rassembler, selon un sondage Elabe pour BFM TV. Gabriel Attal naît à Clamart, ville des Hauts-de-Seine, dans une famille aisée. Son père est avocat et producteur de cinéma. Il grandit à Paris et va à l'école alsacienne, une institution privée et prestigieuse où il fera toute sa scolarité. Dès l'enfance, il se passionne pour le théâtre, qu'il pratique d'ailleurs au sein de son école. Il en parle lors de sa toute première apparition télévisée dans un reportage du 12-13 de France 3 Paris-Île-de-France consacré à l'école alsacienne. Il a 9 ans.
Mes cousins, ils sont dans une école et ils disent qu'ils aimeraient bien être à ma place quand je leur raconte ce qu'on fait un peu.
Gabriel a 9 ans et demi. Ici, il peut pratiquer sa passion en toute liberté, le théâtre, considéré comme n'importe quelle autre matière. Les pièces de Molière n'ont plus de secret pour lui et chaque année, il participe à un spectacle.
Oh, voilà ma fille qui prend l'air. Elle ne me voit pas, elle soupire, elle lève les yeux au ciel.
Papa travaille dans le cinéma et il m'a dit si on voulait être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. L'année avant-dernière, j'ai fait le chat beauté et j'étais le chat. Et l'année dernière, j'ai fait le médecin volant et j'étais le médecin.
Allons donc, découvre ton petit cœur.
Une passion pour le théâtre et le cinéma qui l'animera des années, y compris durant ses études supérieures. Pour l'anecdote, il apparaît dans le film La belle personne de Christophe Honoré dans le rôle d'un lycéen. Mais très tôt, il attrape le virus de la politique. En 2002, il a 13 ans et participe avec ses parents à une manifestation contre la présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. La vocation est née. Sa professeure d'histoire-géographie se souvient pour BFM TV de cet élève studieux et déjà mordu de politique.
Je me souviens d'un jour où il était venu me voir à la fin du cours pour me demander s'il travaillait suffisamment pour être capable de rentrer à Sciences Po.
L'enseignante garde l'image d'un élève sérieux et déjà attiré par la politique, comme lors de l'élection présidentielle de 2007.
Il a voulu organiser un vote à l'école pour voir comment les élèves de l'école voteraient. Donc tout a été organisé, c'est rarissime. C'est le seul élève que j'ai connu faire ça.
Le bac en poche, il entre à Sciences Po Paris et s'engage à gauche, au Parti Socialiste. Il participe à la mobilisation nationale contre le contrat première embauche et soutient la candidature de Ségolène Royal lors de la présidentielle de 2007. En 2011, il est encore étudiant et participe à l'émission « Un monde si jeune » sur France 2. Il répond aux questions de Bruce Toussaint sur l'engagement politique des jeunes.
Moi, je ne crois pas vraiment à cette idée de dépolitisation de notre génération qui est souvent avancée dans les médias ou dans certains ouvrages. Je crois que, effectivement, aujourd'hui, notre génération vote un peu moins que précédemment, au précédent scrutin. Mais les jeunes ont toujours été la classe d'âge qui votait le moins dans toutes les élections depuis le début de la Ve République. Je crois simplement qu'aujourd'hui, c'est plus dur pour nous par rapport à la génération de nos parents pour plusieurs raisons. D'abord, avec la chute du mur de Berlin, les différents repères identitaires sont moins nets qu'ils l'étaient avant pour s'engager.
Ouais.
Et ensuite, je crois aussi que le fait d'aller voter et de se rendre aux urnes, il faut le corréler avec le moment où on entre dans la société et où finalement on passe du jeune au jeune adulte, on va dire, qui a un emploi, qui travaille et qui donc se sent actif dans la société, veut y contribuer.
Ses premiers pas dans l'arène politique, il les fait auprès de la socialiste Marisol Touraine. D'abord lors d'un stage à l'Assemblée nationale, puis dans son cabinet quand elle devient ministre de la Santé. Il a 24 ans, il est alors le plus jeune conseiller ministériel du quinquennat de François Hollande. Puis il se lance. Première victoire électorale en 2014. Gabriel Attal devient l'un des 4 conseillers municipaux socialistes de Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Mais quand Emmanuel Macron annonce sa candidature à la présidentielle de 2017, il quitte le PS et adhère à En Marche, qui deviendra La République En Marche, puis Renaissance. La même année, il se présente aux élections législatives sous la bannière du président.
Comme la moitié de ses candidats, Gabriel Attal, 28 ans, est un néophyte de la politique. Mais cette formation express n'est pas son unique bagage.
candidater à l'élection législative, c'est absolument pas quelque chose qu'on fait comme ça à la va-vite, à la légère. Je pense qu'on se renseigne sur le rôle d'un député, on se renseigne aussi sur comment organiser une campagne, ce qu'il est nécessaire de faire. Et donc je pense que tous ceux qui sont arrivés là avaient déjà des bases absolument solides.
Gabriel Attal est élu. Le 13h de France 2 le suit lors de sa rentrée à l'Assemblée.
Les nouveaux visages de la République en marche sont eux un peu perdus. Sac à dos et casque au bras, un air de rentrée des classes pour Gabriel Attal, 27 ans.
C'est assez impressionnant, même si là je viens pour des formalités purement administratives. Ce sera, je pense, plus impressionnant et émouvant quand il s'agira de rentrer dans l'hémicycle pour la première fois. Mais c'est impressionnant.
Sur les bancs de l'hémicycle, il est l'un des snipers d'Emmanuel Macron. Le quotidien Le Monde écrit « Des janissaires dévoués corps et âme au chef de l'État, qui ne dépendent que de lui, ne rendent de compte qu'à lui. » Un certain aplomb, un sens de la formule et une aisance à l'oral. Très vite, il crève l'écran. Il devient porte-parole de La République En Marche. En 2018, secrétaire d'État. À 29 ans, il est le plus jeune membre d'un gouvernement sous la Ve République. Sa sortie sur la « gréviculture » marque les esprits. Philippe Martinez, l'ancien secrétaire général de la CGT, s'en indigne au micro de Léa Salamé sur France Inter.
Hier, le porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, qui était à votre place, a dénoncé les conservatismes des grévistes, le côté « surtout ne changeons pas alors que le monde change », et il a dénoncé ce qu'il appelle une « gréviculture ».
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est, j'allais dire, pour quelqu'un qui se prétend moderne, c'est des propos qu'on entend qui sont vieux comme le monde, ou vieux comme les hommes politiques.
Malgré son jeune âge, Gabriel Attal gravit rapidement tous les échelons. Porte-parole du gouvernement, ministre délégué chargé des comptes publics, puis ministre de l'Éducation nationale. Et fait de sa jeunesse une force.
Je suis jeune, j'ai 34 ans. Mais je veux rappeler qu'on peut avoir 34 ans et de lourdes responsabilités.
Et le 9 janvier 2024, il est nommé Premier ministre. La passation de pouvoir est diffusée en direct sur BFM TV.
Il est en train d'attendre à la fin, au bout de la cour, et vous le voyez, Elisabeth Borne, qui l'attend en haut des marches de Matignon. Image importante, Gabriel Attal, qui donc traverse la cour de Matignon au 57 rue Varenne et qui va rejoindre Elisabeth Borne. On va voir les deux se rapprocher et se saluer avant de rejoindre le bureau, le futur bureau, le nouveau bureau de Gabriel Attal.
Une ascension politique fulgurante pour le nouveau chef de gouvernement qui devient, à 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Lors de sa première interview télévisée en tant que chef du gouvernement, il promet de l'action, de l'action, de l'action, des résultats, des résultats, des résultats et de l'énergie. Gabriel impose son style direct jusque dans la gestion de sa communication privée. Il parle ouvertement dans les médias de son homosexualité, lui qui a été paxé à Stéphane Séjourné, l'actuel ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Lors de son arrivée à Matignon, il évoque son orientation sexuelle sans détour devant l'Assemblée.
Être français en 2024, c'est, dans un pays qui il y a 10 ans seulement se déchirait encore sur le mariage pour tous, pouvoir être Premier ministre en assumant ouvertement son homosexualité.
Après Matignon, quel avenir pour Gabriel Attal ? Dans l'émission « Un monde si jeune » à laquelle il participait en 2011, certains le voyaient déjà à l'Élysée.
Est-ce qu'il ferait un bon politique ?
Moi, je voterai pour lui.
J'ai dit Gabi président.
Carrément.
Président.
C'est lui le futur président ?
C'est lui le futur.
Ouais.
Donc ces images valent très très cher.
Il nous a déjà attribué des fonctions.
Ah, ouais, oui. Ouais, on a déjà des fonctions.
Voilà. C'était pas au courant.
C'est sûr, on a des fonctions déjà.
Bonjour Bernard Sananès.
Bonjour.
Vous êtes politologue, président de l'Institut d'études ELAB, partenaire de BFM TV. Les Français et les Françaises ont globalement une bonne image de la personnalité de Gabriel Attal. Pour reprendre les données du sondage ELAB pour BFM TV paru ce jeudi, il est perçu comme dynamique par près de 7 Français sur 10, courageux pour 58% des personnes interrogées, et un peu plus de la moitié estiment qu'il est compétent. Mais c'est tout le paradoxe, seuls 38% des Français font confiance en sa capacité à rassembler. Comment expliquer cette contradiction ?
Alors, je dirais au global, quand on analyse le sondage, que finalement les Français n'ont pas encore d'opinion définitive sur le Premier ministre. J'allais dire, aux yeux des Français, Gabriel Attal est encore en période d'essai. Et finalement, c'est bien normal après ces 100 jours. D'ailleurs, quand on leur demande de qualifier son action, est-ce qu'elle est satisfaisante, décevante, la première des réponses, c'est il est trop tôt pour se prononcer. Alors, vous avez raison de le souligner, le Premier ministre a par contre une personnalité positive, mais son action n'a pas encore convaincu. Personnalité positive, ce qu'on appelle dans notre jargon les traits d'image, sont accueillis avec plutôt une neutralité bienveillante. On a un regard plutôt bienveillant sur ce qu'il est, sur sa jeunesse, sur son dynamisme. Par exemple, au début, il a été un peu critiqué sur sa jeunesse auprès de l'opinion. Ça, c'est une attaque, une critique qui ne fonctionne pas du tout. C'est plutôt son dynamisme qui est d'ailleurs reconnu comme sa première qualité. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que après 100 jours et donc une exposition médiatique plus forte que précédemment, il progresse également sur sa capacité à réformer, sur le fait de comprendre les gens comme vous et sur la capacité de faire des compromis avec les oppositions. Finalement, ses qualités, sa capacité à gouverner n'est pas remise en cause. En revanche, et c'est un peu le point noir, il lui reste à convaincre sur l'efficacité de son action. Il voulait, dans sa première déclaration, il avait beaucoup insisté sur l'exigence de résultats. Pour l'instant, les Français ne voient pas encore ces résultats.
Dans un précédent sondage Elabe réalisé en mars dernier, on voit que la cote de popularité de Gabriel Attal est supérieure de 5 points à celle d'Emmanuel Macron. Un Premier ministre plus populaire que le Président de la République, c'est commun ?
C'est déjà arrivé en tout cas, notamment l'exemple le plus long, ça a été François Fillon qui a été pendant une bonne partie du quinquennat plus populaire que Nicolas Sarkozy. En fait, la personnalité de Gabriel Attal est beaucoup moins clivante que celle d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est aujourd'hui un président de la République qui est à la fois impopulaire, il n'y a qu'un quart des Français qui lui font confiance au chef de l'État, et puis il a une personnalité qui clive beaucoup, il a une capacité à susciter de l'irritation chez beaucoup des électeurs que Gabriel Attal n'a pas, ou en tout cas n'a pas aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait que cette image du Premier ministre et cette popularité que vous avez évoquée soit aujourd'hui supérieure à celle du Président de la République. Et puis encore une fois, Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 7 ans, Gabriel Attal depuis 100 jours, donc c'est sûr que le regard n'est pas le même et les épreuves traversées, l'exposition traversée par le Président de la République ne sont pas les mêmes que celles vécues par le Premier ministre depuis son arrivée à Matignon.
Dans votre sondage, on voit aussi que la popularité de Gabriel Attal s'effrite légèrement. Est-ce qu'il faut y voir un renversement de la tendance ou finalement, est-ce que c'est le cours normal des choses pour un Premier ministre ?
Non, vous avez raison, c'est le cours normal des choses. Vous savez, on utilise souvent, et les journalistes utilisent souvent, les observateurs, cette expression de l'enfer de Matignon ou l'essoreuse. Matignon, on est obligé de s'exprimer tous les jours, sur tous les sujets, souvent en réaction, même quand on a prévu de dérouler des plans d'action, des programmes d'action, des séquences de communication, eh bien, un événement vient bouleverser votre agenda. Et puis, deuxièmement, vous aviez, par rapport aux premières enquêtes que vous évoquiez, une part de Français qui ne se prononçaient pas, ils sont un peu moins nombreux, et comme toujours, quand ils réagissent par rapport à telle ou telle mesure, eh bien, à ce moment-là, leur image change et se dégrade un petit peu. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Gabriel Attal a été nommé ministre de l'Éducation, ce phénomène ne s'est pas produit. À l'inverse, il a gagné en notoriété, mais il a aussi gagné en image positive. Là, c'est un peu différent, vous avez raison, il recule légèrement. Il y a notamment une mesure qui est très clivante et qui a suscité la réaction des Français, c'est la mesure sur l'indemnisation et le durcissement des conditions d'indemnisation de l'assurance chômage. On voit que c'est à la fois la mesure la plus mémorisée, donc c'est un marqueur politique très important pour l'image de Gabriel Attal auprès des Français, mais c'est aussi la mesure la plus clivante. Elle ne rassemble qu'un Français sur deux, alors que les autres mesures proposées par le Premier ministre et que nous avons testées dans notre sondage suscitent une adhésion beaucoup plus forte.
Vous relevez aussi que près de la moitié des Français estiment qu'il est trop tôt pour juger l'action de Gabriel Attal. 100 jours, c'est vraiment trop tôt pour rendre compte de l'efficacité d'un Premier ministre ?
Oui, je crois objectivement, et là-dessus je suis d'accord avec les Français, que 100 jours, c'est trop tôt. C'est trop tôt d'abord pour avoir le temps de dérouler et de mettre en œuvre un certain nombre de mesures. Regardez ce qui se passe par exemple sur la crise agricole, on ne peut pas dire qu'elle soit encore complètement dénouée. Le Premier ministre va faire des annonces aujourd'hui très importantes, semble-t-il. En tout cas, elles ont été annoncées comme ça en matière d'autorité contre les violences commises entre jeunes, eh bien, ce sont des mesures qui ne vont pas avoir de l'impact tout de suite. La question, c'est comment le Premier ministre convainc l'opinion qu'il est sur une bonne dynamique et que ses actions vont avoir des résultats. Et ça pose un autre problème. auquel est confronté le Premier ministre, mais j'allais dire tous les responsables politiques, c'est l'efficacité de la parole publique. Qu'est-ce qui fait que je fais confiance à ce Premier ministre lorsqu'il m'annonce des choses? Est-ce que je me dis oui, ça va dans le bon sens et je vais voir du changement? Ou est-ce que je me dis quand je l'écoute, comme une partie des Français, ah ben finalement, ça ne va encore rien changer pour moi? Par exemple, il y a un thème sur lequel, pour l'instant, le jugement est assez critique, c'est celui sur le pouvoir d'achat. On crédite peu le Premier ministre de pouvoir changer les choses en matière de pouvoir d'achat. Or, c'est la préoccupation première des Français. Ceci explique donc peut-être cela. Sur un thème majeur comme celui-ci du pouvoir d'achat, le Premier ministre n'est pas encore perçu dans l'opinion comme ayant changé les choses et exprimé une volonté forte.
Depuis ses premiers pas en politique, Gabriel Attal s'est illustré par son aplomb, une certaine facilité à prendre la parole, son sens de la formule. On se souvient d'ailleurs de « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies ». François Hollande juge que sa ressemblance avec Nicolas Sarkozy est frappante. C'est le cas ?
Oui, en tant qu'observateur, effectivement, on peut être frappé par la proximité de méthode, hein, et non pas de ligne politique, ce serait un peu raccourci de dire ça, de méthode entre le volontarisme de Nicolas Sarkozy et le volontarisme que tente d'exposer Gabriel Attal. Mais l'un comme l'autre seront à un moment rattrapés par les résultats. Ce volontarisme, les Français, encore une fois, l'accueillent avec plutôt une neutralité bienveillante. Ils apprécient le discours clair, ça on le voit beaucoup dans, vous savez, ce qu'on appelle dans notre jargon les questions ouvertes, hein, quand on demande aux Français de s'exprimer plus largement que oui ou non sur la personnalité du Premier ministre. Le fait qu'il parle clair, qu'il parle net, c'est aussi d'ailleurs une démarcation par rapport à Emmanuel Macron, qui est de plus en plus perçu comme un président hésitant, eh bien, c'est mis au crédit du Premier ministre. Mais ça conforte et ça renforce l'exigence et l'attente de résultats. Donc on est dans un moment, encore une fois, de neutralité bienveillante en période d'essai, mais à un moment, ce rendez-vous des résultats se présentera au Premier ministre, sans doute à la rentrée de septembre.
Un collaborateur de Gabriel Attal raconte les coulisses de Matignon. Pas de tableau de suivi, pas de document de travail, tout est dans la boucle Telegram, la messagerie instantanée. C'est une nouvelle manière de faire de la politique?
En tout cas, on ne peut être que frappé quand on suit la vie politique depuis un peu de temps, comme c'est mon cas, de voir que l'exigence du court terme l'a complètement emporté sur la vision de long terme. Et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, et mon propos ne vise pas que le Premier ministre, mais c'est une remarque générale. Le court terme a bien sûr toujours compté chez les hommes politiques. Il y a une sanction immédiate ou une approbation immédiate qui est recherchée dans l'opinion. Mais c'est vrai que cette exigence du court terme, le fait de vouloir réagir sur tous les sujets rapidement, ne laisse pas beaucoup de temps à la prise de hauteur. Alors pour l'instant, hein, soyons objectifs et analysons les chiffres. Pour l'instant, ce n'est pas reproché au Premier ministre. On loue plutôt son volontarisme, son dynamique. Et dans cette dynamique et dans ce volontarisme, il y a effectivement le fait d'être présent sur les événements et de montrer qu'il est engagé à régler un certain nombre de problèmes. La communication du Premier ministre aujourd'hui sur le sujet des violences entre les jeunes sera un marqueur fort qui sera observé de près dans l'opinion. La sécurité, c'est effectivement le troisième sujet de préoccupation des Français. Et ce qui s'est passé depuis quelques semaines a évidemment profondément marqué l'opinion publique.
Merci Bernard Sananès d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci à vous.
Merci à Marie-Aimée pour la réalisation de ce podcast. Et merci à vous d'avoir écouté le titre à la une. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire et à le partager autour de vous. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro.